bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1 80 14 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue docteur Jean Lindsay au micro de Sentez-vous bien.
Bonjour Oscar.
Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'un sigle qui est assez difficile à dire et à comprendre. À dire encore ça va, mais à le déchiffrer. C'est le CRISPR-Cas9.
Voilà.
Alors, je l'ai bien dit.
Oui, très bien. Le CRISPR-Cas9, c'est de l'anglais. C'est Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats, CRIPR, Cas9. Sur Internet, vous tapez ça, il y a Wikipédia qui vous expliquera ce que c'est. Hein.
Et donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle?
Eh ben, c'est une grande découverte actuelle qui défraye beaucoup la chronique en biologie. Alors, ça a été découvert par une Parisienne qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, avec une Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna. Et elles travaillaient sur les bactéries, et elles se sont aperçues que les bactéries avaient la capacité à se défendre contre les virus qui les attaquent. Quand un virus attaque une bactérie, le virus se colle sur la bactérie, injecte son génome à la bactérie. Le génome du virus va s'intégrer dans le génome de la bactérie et va prendre les commandes de la bactérie. C'est-à-dire que la bactérie ne va plus travailler pour elle-même, elle ne va plus faire fonctionner tous ses métabolismes pour elle, mais tout va être réorienté vers la fabrication de virus. Donc la bactérie va fabriquer des virus, elle va mourir, elle va éclater, et les virus vont partir sur d'autres bactéries. C'est comme ça que les virus vont se propager. Les virus qui s'appellent en l'occurrence des bactériophages, puisque ce sont des virus qui mangent les bactéries. On s'est aperçu que les bactéries se défendent. Elles ont un système, une espèce de système immunitaire assez simple. Quand on en parle comme ça, oui. Par rapport aux nôtres, parce que nous, on en a plusieurs. Bon. Alors, en gros, lorsque le virus a injecté son génome dans le génome de la bactérie, eh bien, la bactérie a un système qui lui permet d'aller couper, avant que les métabolismes ne se mettent en route pour fabriquer des virus, la bactérie a un système qui va aller couper le bout de génome du virus qui a été intégré dans son génome pour éviter que les métabolistes se mettent à fabriquer des virus. Alors ça, c'est incroyable. C'est un ciseau, en somme, un ciseau génétique qui va aller couper le bout de génome qui risque de changer complètement les métabolismes de la bactérie. Et ce ciseau, si on lui met le complément du génome que l'on veut couper, ce système est capable d'aller couper ce qu'on veut. Il suffit de donner la séquence complémentaire du bout de génome qu'on veut couper pour que l'enzyme, qui s'appelle la Cas9, coupe le génome exactement, très précisément, à l'endroit complémentaire de ce qu'on a donné. Donc on a un outil On a un ciseau génétique, si vous voulez, d'une précision absolue.
Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir.
Ah bah oui, il y a déjà du monde là-dessus.
C'est une découverte importante.
Oui, importante, et qui est un sous-produit tout à fait inattendu, puisque Emmanuelle Charpentier, elle travaillait, si vous voulez, sur les bactéries et les virus, et qu'elle n'était pas très publiée. Enfin, ce qu'elle publiait, les travaux qu'elle faisait, n'intéressaient pas énormément la communauté scientifique, jusqu'au jour où on s'est aperçu que, grâce à ça, on avait un ciseau génétique... semble-t-il assez universel, parce que ça marche même sur les plantes. Alors là, maintenant, c'est l'enthousiasme. Bon, alors, il faudra faire le bilan d'ici 2-3 ans, voir si les promesses seront tenues, mais ça restera un bel outil. Peut-être ne tiendra-t-il pas tous les espoirs qu'on peut mettre dedans.
Quel type d'espoir, par exemple?
Évidemment, derrière ça, on a la réparation génétique d'énormément de maladies génétiques, quoi. Oui, après, on peut faire ce qu'on veut.
Est-ce qu'on pourra découper précisément la partie dégradée?
Oui, et y mettre autre chose.
Et y remettre une partie en bon état.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est plus vite à dire qu'à faire.
Je le conçois bien, oui.
Emmanuel Charpentier dit bien que c'est pas si simple.
Oui,
la percée est faite. Nous est arrivé un nouvel outil incroyable, quoi, imprévu. Voilà, c'est ça la grosse affaire.
Donc, le CRISPR-Cas9.
La CRISPR-Cas9. Et puis, Emmanuel Charpentier sur TEDx ou Wikipédia. Là, on aura vraiment des nouvelles enthousiasmantes. Voilà.
Donc, on pourra suivre ce qui se passe avec ce ciseau génétique.
Voilà.
Et savoir s'il tient toutes ses promesses ou pas.
Oui. Enfin, il en tient déjà un peu. Il a déjà donné beaucoup en termes de recherche fondamentale. Tout un tas d'applications en termes de recherche. Est-ce que ça ira jusqu'à traiter des maladies génétiques qui nous empoisonnent pour les humains? Il faut attendre un peu quand même.
Il faut être patient. Voilà. Docteur Jean Lindsay, merci beaucoup pour être venu nous parler du CRISPR-Cas9 dans Sentez-vous bien. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique qui nous parlera évidemment de santé.
Au revoir Oscar.
Au revoir.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100-77-193, Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons parler de la Trinité. Alors la Trinité, vous connaissez tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le fameux 1 plus 1 plus 1 égale 1 qui est la risée de pas mal de personnes. Alors justement, on s'est déjà interrogé dans une précédente émission sur la cohérence de cette idée de Trinité, qui justement n'a rien à voir avec le fameux calcul que je viens de faire à l'instant, et aujourd'hui nous allons plus loin. Alors est-ce que justement le fait de réfléchir sur le concept de Dieu ne conduit pas à conclure que Dieu doit être trinitaire? Alors Alexis, pour commencer, peut-on définir la Trinité?
Alors la Trinité, comme nous l'avions dit, est une doctrine spécifiquement chrétienne, d'après laquelle Dieu est un être tripersonnel. Donc c'est un être, hein, les chrétiens sont monothéistes, pour eux il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans cet être il n'y a pas une personne, mais trois personnes, c'est la spécificité chrétienne. Alors pour le comprendre, des philosophes tels que Morland et Craig ont proposé une analogie, l'analogie de Cerbère. Alors, Cerbère c'est quoi ? C'est un chien dans la mythologie grecque qui est tricéphale, c'est-à-dire il a un corps mais il a trois têtes, et donc par conséquent il a trois consciences. Donc c'est bien un être, mais avec trois consciences. Et bien de la même manière, on pourrait dire que la Trinité est un être, alors certes, Dieu n'est pas un chien, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'est pas matériel, mais c'est un être spirituel dans lequel il y a trois consciences.
Et pourquoi Dieu serait-il trois personnes ?
Alors, un certain nombre de philosophes ont proposé un certain nombre d'arguments en faveur de la Trinité, et l'un des arguments les plus remarquables est certainement celui qui repose sur la notion d'amour, qui a d'abord été avancée notamment par Richard de Saint-Victor, mais qui aujourd'hui continue d'être soutenu par des philosophes contemporains tels que Richard Swinburne ou encore Stephen Davis. Alors, en quoi consiste l'argument ? Eh bien, c'est très simple, il repose sur une analyse de la notion d'amour. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est la relation entre plusieurs personnes. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une relation entre plusieurs personnes. Cela veut donc dire que Dieu doit avoir de la relation. Alors, le problème est le suivant, si Dieu est parfait, il est nécessairement amour, mais si Dieu est amour, si sa relation repose sur un rapport à d'autres êtres que lui-même, eh bien, cela veut dire qu'il dépend de ces êtres pour être amour. Si, par exemple, Dieu a besoin des anges ou besoin des hommes pour être amour, eh bien, il n'est pas autosuffisant et donc il n'est pas parfait. Pour que Dieu soit parfait, il faut donc qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même, qu'il y ait plusieurs consciences dans un seul être qui est Dieu. Alors ce type d'argument a connu quelques variantes. Par exemple, Raymond Lull reposait plutôt sur la bonté en disant que pour être bon, il faut être bon envers quelqu'un. Et donc par conséquent, si Dieu est bon, il faut également qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même.
Alors avec la Trinité, il y a trois personnes au sein de cette entité, de cet être qui est Dieu. Alors pourquoi trois et pas quatre, cinq, mille ?
Alors, en ce qui concerne l'amour, pour revenir sur cette qualité, l'amour implique deux choses. D'une part, le partage, et d'autre part, la coopération. Alors, pour commencer, le partage, qu'est-ce que c'est ? Le partage, c'est le rapport qu'il y a entre un donateur et un receveur. L'exemple classique d'amour où il y a un partage, c'est bien entendu entre l'époux et l'épouse, où il y a deux personnes, l'un reçoit et donne à l'autre, et l'autre de même peut recevoir et redonner en échange. Donc par conséquent, on voit qu'il y a besoin au moins de deux êtres pour qu'il y ait une relation d'amour. Mais cependant, s'il n'y avait que deux êtres uniquement qui se donnent pleinement l'un à l'autre, il y aurait une forme de complaisance où je reçois tout de l'autre et où on est enfermé en nous-mêmes. Et donc par conséquent, il faut aussi qu'il y ait une forme de coopération. La coopération, c'est quoi ? C'est lorsque deux êtres ou deux personnes coopèrent envers une troisième. L'exemple classique, c'est évidemment les parents qui portent leur amour vers autre chose qu'eux-mêmes, qui est leur enfant, tout simplement. Et donc, cela implique forcément trois personnes. Donc, si par conséquent, il faut que pour qu'un amour plein existe en Dieu, il faut qu'il y ait au moins trois personnes, eh bien, il faut qu'il y ait au moins trois personnes également en Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu soit amour par nature, il faut que Dieu soit au moins trois personnes. Mais s'il était plus que trois personnes, eh bien, sachant qu'il n'y a aucune raison impérieuse à cela, cela impliquerait de l'aléatoire dans la nature de Dieu. Et or, Dieu étant nécessaire, Dieu étant parfait, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'aléatoire en Dieu, donc il faut s'en tenir à ces trois personnes. Autrement dit, pour que Dieu soit pleinement amour, il faut trois personnes, et dans la mesure où Dieu est nécessaire, eh bien, il suffit de trois personnes, donc Dieu est trois personnes. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'amour de la Trinité.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista,
la voce della speranza.
Thank you.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors Pierre Péchou, vous êtes pasteur, vous êtes aussi conférencier, chroniqueur, et aujourd'hui, comme vous le faites régulièrement à ce micro, vous nous invitez à nous arrêter sur un texte que vous avez sélectionné dans la Bible. Vous nous proposez donc de partager une réflexion autour de ce texte que l'on trouve dans la lettre aux Romains.
Au chapitre 8 de cette lettre, et je dirais le verset 26. « De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
Qu'est-ce que ce texte vous inspire exactement, Pierre Péchou? C'est important de savoir que nos faiblesses peuvent être transcendées par l'Esprit de Dieu.
C'est important déjà de savoir que notre faiblesse est reconnue avant d'aller plus loin. Et je viens de lire le verset, mais je vais le relire, mais que la première partie. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il y a une suite qui sera liée à la prière, mais on va quand même s'arrêter là. Avant de savoir si c'est important que l'Esprit de Dieu puisse transcender notre faiblesse, c'est-à-dire en fait effacer l'obstacle que peut être la faiblesse, eh bien déjà, cette faiblesse, elle est reconnue par Dieu. Le Dieu de la Bible ne me demande pas d'être fort. Le discours de Dieu, ce n'est pas de dire « parce que je suis le Dieu Tout-Puissant, si tu es avec moi, tu dois être toi aussi dans la force et tu n'as plus le droit à être faible. » Bien au contraire, Dieu insiste dans la Bible pour être appelé Père. Et qui ne connaît pas la faiblesse de ses enfants plus que le Père? Et j'aime beaucoup cette image du Père. Et donc déjà, ce que pose le verset, c'est « je sais que vous êtes faible, que vous avez des difficultés ». Alors, la faiblesse peut être de tout ordre, et on rentrera pas dans les détails. Parce que ici, le verset ne s'arrête pas là, ça continue. Vous êtes faible parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. C'est-à-dire que la prière, on va la présenter simplement comme la relation qu'on va établir avec Dieu. Donc, par la prière, par ce dialogue que nous entamons avec Dieu, nous discutons et nous avons des choses à lui présenter. Et là, le texte nous dit, je pense que c'est une réalité, on ne sait pas comment demander. Et parfois, on peut avoir sur le cœur des choses très importantes qui concernent nos vies, sans être sûr d'avoir bien su l'exprimer à Dieu. Et là, ce texte, pour moi, est vraiment libérateur, parce que ce Dieu qui sait que nous sommes faibles et qui accepte cette faiblesse, nous dit aussi, ben voilà, l'Esprit de Dieu va sonder vos cœurs et monter vers Dieu des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer correctement.
Ça permet de nous décomplexer totalement face à la prière, de sortir un peu des peurs de ne pas savoir prier, ce texte.
Et dans ce sens-là, on ne dira plus « je ne sais pas prier ». Du moment où vous savez exprimer des pensées et les exprimer à quelqu'un, eh bien vous pouvez être dans la prière. Chacun aura une habitude de prière, enfin peut avoir une habitude de prière, un lieu particulier, un temps particulier. Alors imaginons que je décide d'avoir ce temps le matin dans ma chambre. Eh bien, voilà, je suis au calme, personne ne vient me déranger. Et là, j'instaure un dialogue avec Dieu et je lui ouvre mon cœur. Et j'invite Dieu aussi à dire, ben voilà, tu peux sonder ce que je suis. Et cet Esprit de Dieu, en fait, fera monter vers le Père tout ce que moi, je n'arrive pas forcément à bien exprimer.
Alors au fond, est-ce que ce texte n'est pas un encouragement à la prière, finalement, Pierre Péchou?
Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de prier? Et je pense que dans le mot faiblesse, on peut y mettre beaucoup de choses. Je suis faible parce que je ne sais pas prier. Je suis faible parce que je ne suis pas digne de parler avec Dieu. Je suis faible, etc., etc. Donc oui, ce texte est un encouragement à la prière, parce que je reviens à la première idée que nous avons développée ensemble. Dieu connaît cette faiblesse et il l'accepte. Donc, je n'ai pas à me soucier de ne pas être ceci ou cela pour pouvoir parler avec Dieu. Donc, c'est un encouragement à rentrer dans ce temps mis à part où je vais m'adresser à Dieu avec mes mots, quels qu'ils soient. Peu importe si j'ai l'impression que c'est pas les bons mots, que j'ai mal parlé. Dieu est un Père, il accepte nos paroles, nos idées. Instaurons ce dialogue, parlons-lui. Et puis une fois qu'on a fini de prier, eh bien ce texte nous dit, voilà, vos prières sont montées à Dieu, il les a comprises, parce que l'Esprit de Dieu a intercédé et est venu dans nos cœurs et a fait monter vers le Père l'essence même de nos demandes et de nos besoins.
nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et tout ça bien sûr en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.
We'll be right back.